Analyse, une émission produite et animée par Christophe Médici.
Remède à l'entrecrise, bonjour, permettez-moi, sur l'antenne d'IDFM 98.0, c'est la première de l'année de Remède à l'entrecrise. On vous souhaite une merveilleuse année 2025. Et pour commencer cette année, j'ai eu envie de voir comment on est en pleine crise, en plein marasme. C'est pas pour rien que j'ai créé cette idée, ce concept d'entrecrise, un entrelac de crise, chers amis auditeurs. J'ai deux personnages, et c'est le terme, intéressant, et vraiment, je suis persuadé qu'ils vont vous passionner. On a d'abord monsieur Daniel Ishbia, qui est alors un homme protéiforme, mais qui a écrit une biographie de téléphone dont le titre est Téléphone au cœur de la vie. Bonjour Daniel.
Bonjour Christophe.
Vous pouvez souhaiter une bonne année aux auditeurs d'IDFM.
Happy New Year.
Voilà, et monsieur est bilingue. Et puis nous avons aussi un créateur, un entrepreneur. Vous savez que le concept de l'émission, c'est d'avoir face à un auteur, un entrepreneur spécialiste du stress et qui aide les gens à déstresser grâce à sa méthode Stress Break. Emmanuel oui. Rey, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez souhaiter une bonne année.
Bonne année à tous ces auditeurs et à tous ces gens qui écoutent.
Et voilà. À la réalisation, Francky, comme toujours. Alors, vous savez, messieurs, en ce début d'année, j'aimerais qu'on aide les gens à retrouver un peu le sourire, même si la période est bien morose. Et d'abord, je vais vous poser la première question à vous, Daniel Ishbia. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots aux auditeurs d'IDFM pour dire qui vous êtes? Daniel Ishbia.
C'est une question très difficile. Je suis un passionné. Moi, je compare un peu mon rôle, celui des journalistes, à quelqu'un qui serait sur le toit d'un immeuble qui voit quelque chose, qui dit « Eh les gars, venez voir, il se passe un truc pas possible. » Voilà.
Vous êtes journaliste.
Je suis journaliste, écrivain,
journaliste et auteur.
Mais aussi, forcément très geek, très high-tech, et puis la musique. Mais j'aime bien faire découvrir le propre du journalisme dans les journaux spécialisés, c'est de faire partager des passions. Quoi.
Vous êtes un partageur de passions. Emmanuel Rey, qui êtes-vous pour les auditeurs de Remède à l'entrecrise?
Je suis surtout un spécialiste du déstressage. J'adore déstresser des gens que je vois paniquer, qui sont dans la tension.
Vous avez fait longtemps kiné, je crois.
J'ai eu la chance d'être au tout début prof de tennis. Du coup, j'ai enseigné le tennis. J'ai pu faire le bataillon de Joinville avec les meilleurs sportifs français.
Vous étiez un très bon tennisman et après kiné.
Kiné,
d'accord.
J'étais kiné du sport et j'ai pu faire le Paris-Dakar. Je me suis occupé à Versailles d'un cabinet où j'avais le GIGN en client principal, et beaucoup de cadres dirigeants qui venaient avec des stress pas possibles. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? C'est là où il faut aller intervenir, déstresser ces gens,
d'où la méthode Stress Break.
D'où Stress Break aujourd'hui qui naît avec un océan bleu. On a fait ça avec Alban Héral, qui est un grand coach qui travaille sur justement l'innovation Blue Océan.
Bon, on va voir aussi le iPhone
du bien-être.
On va voir aussi, Emmanuel, que vous avez un très beau lieu que vous co-gérez avec votre compagne. On expliquera aux auditeurs d'IDFM où c'est et comment on y vient. On va venir à vous, Daniel Ishbia.
Oui.
Parce que vous êtes avant tout, là, on va se recentrer, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre tous les deux sur ce plateau en début d'année, parce que vous êtes deux spécialistes du déstress, parce que vous êtes amoureux de la musique, et notamment d'un groupe qui s'appelle Téléphone.
Oui.
Alors, chers amis auditeurs, je vais pas vous faire l'injure de vous parler de Téléphone, mais on va écouter beaucoup de chansons de Téléphone, évidemment.
Oui.
Et puis surtout, moi, ma première question, Daniel Ishbia, c'est comment en êtes-vous venu à faire une biographie de Téléphone dont le titre est Téléphone au cœur de la vie? Comment ça s'est passé?
J'écrivais énormément sur la haute technologie. J'avais écrit la biographie de Bill Gates, j'avais écrit la saga des jeux vidéo.
Mais a priori, c'est pas. pas directement dans Téléphone.
Mais
là.
Je cherchais depuis.
À moins qu'on prenne le titre du groupe.
Disons que j'avais cette spécialité high-tech qui était une activité qui marchait très bien, mais je voulais écrire dans la musique depuis très longtemps. Et donc, chaque fois que je proposais un livre à un éditeur, on en arrivait tout de suite, il me disait, tu nous fais une histoire d'Internet, tu nous fais quelque chose sur les jeux vidéo. Et puis, finalement, un jour, coup de bol, Louis Bertignac, ancien guitariste de Téléphone, était allé à une soirée jeux vidéo d'un éditeur de jeux vidéo. Et puis, j'avais proposé à un éditeur, et puis, si je te proposais, il me disait non à chaque fois, on voulait faire les Beatles, tout ça, il disait non. Et puis, j'avais dit Téléphone, ça avait jamais été fait, il m'a dit banco. Donc, mon pote du jeu vidéo qui avait connu Louis Bertignac m'a introduit pour que je puisse interviewer Louis Bertignac. Ma copine de l'époque avait un guitariste qui avait joué avec Corinne. J'ai pu interviewer Corinne. De fil en aiguille, j'ai pu interviewer Colin Carr. Et puis, et puis bien sûr Jean-Louis Aubert, plus les amis d'enfance, et puis ça a donné une biographie. Ça a été un petit peu pour moi la carte de visite, parce qu'en sortant la biographie de téléphone, après, on m'a commandé Madonna, les Beatles, Georges Brassens, enfin bon, je voulais rentrer dans cet univers d'écrire pas seulement sur la
technologie. Donc c'est-à-dire que vous avez écrit en plus de téléphone, mais là on va se centrer sur ce livre-là, hein, téléphone, oui. Mais vous avez écrit sur d'autres chanteurs et d'autres chanteuses.
Tout à fait.
D'accord, c'est passionnant, vous allez nous en parler aussi, mais on va quand même se centrer sur téléphone,
bien
d'accord
sûr.
Emmanuel Rey, je disais là au tout début que vous avez un lieu, il a un nom d'ailleurs, votre lieu de bien-être dans le 78 avec votre épouse.
Actuellement, il a le nom Eau et Terre.
Eau et Terre.
Eau avec comme le O de...
Oui, voilà, pas de... l'eau, A-U, l'élément. D'accord. Eau et Terre, et c'est situé où alors, Emmanuel Rey?
C'est exactement situé à 20 minutes de Fontainebleau, sud, Seine-et-Marne, près de Montreux, près de Moret-sur-Loing, le fameux village où il y a beaucoup
très
de
beau.
Peintres. Et on a la chance d'avoir un village extrêmement isolé des lignes téléphoniques, déjà des lignes électriques.
C'est une zone blanche.
C'est une zone. Et du coup, on a énormément de silence aussi. Beaucoup, très peu de pollution lumineuse. Et le soir, quand vous êtes dans les jacuzzi, parce que le concept, c'est vraiment l'eau, les jacuzzi et le bain de forêt, puisqu'on a une forêt tout près qui est...
Donc vous faites de la sylvothérapie.
Sylvothérapie.
On parlera de la sylvothérapie, Emmanuel Rey, parce que moi, j'aime beaucoup pratiquer la sylvothérapie.
Oui.
Chers amis auditeurs de Remède à l'entrecrise, c'est la thérapie de la forêt. Et sachez que quand on va en forêt, on se fait un bien fou. D'abord, on sait que d'aller dans la nature, ça baisse le taux des mauvaises hormones du stress. Ça les baisse, ça augmente
ça
le taux de sérotonine, ça libère. C'est pas pour rien qu'on aime aller dans la nature. Voilà. Donc, on a deux déstress, la nature et la musique. Hein, comme disait Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur, n'est-ce pas? Très jolie phrase de Nietzsche.
Préféré.
Mais c'est une très jolie phrase de Nietzsche. Sans la musique, la vie serait une erreur. Vous avez dit quoi?
Ce n'est pas mon auteur préféré.
Oui, pourquoi? Il avait un petit côté, les nazis l'ont utilisé, c'est pour ça que
vous
avez dit
ça. Disons que ses fans étaient recrutés dans
C'est pas forcément la faute de Nietzsche.
Pas forcément recommandable.
On va pas en vouloir à Nietzsche.
Oui, c'est vrai.
Comme disait Max Weber, les valeurs sont polythéistes. Donc c'est pas du tout la faute, parce que, voilà, c'est dans l'as, moi qui suis normalien à la base, hein, c'est mon côté Jean-Paul Sartre, Nietzsche a été et restera pour toujours un immense philosophe, d'accord? Et certainement le plus poète de tous les philosophes. Et moi qui finis mon épilogue par Amor Fati, cette phrase magnifique, Amor Fati de Nietzsche, aime ton destin, là je remettrai en cause le fait que Nietzsche n'était pas un grand, c'était un immense. Bon, il a fini fou.
Ah, une autre émission.
Ouais, il ferait une émission. Venons-en à parler de téléphone. Comment ça se passe, les débuts pour vous de votre biographie, Daniel, sur téléphone? Vous allez voir qui au départ? Bertignac?
Au début, c'est Bertignac. Je me retrouve dans son antre. C'est assez marrant, d'ailleurs, parce que il m'avait raconté que quand Carla Bruni avait 15 ans, elle était venue, quoi, c'était la groupie. Il disait, avec la tronche que j'avais, il s'était fait draguer par Carla Bruni, quoi. Et donc, c'est dans son antre. Je me retrouve. On a passé... Bertignac, c'est une personne, si on passe une soirée avec, on s'en rappelle toute sa vie. C'est un être éthéré, très... C'est comme une sorte d'ange, quoi.
Il est dans son monde.
Ultra doué. Ça se sent. Et c'est marrant parce qu'à la guitare, il peut vous faire ce qu'on appelle des blind tests. Il vous fait l'intro de NG ou de chansons de Yes, des Beatles, etc. Et il les reproduit à merveille. C'est un petit peu... On peut dire que téléphone, l'âme, c'est quand même Jean-Louis Aubert, parce qu'il a écrit ces textes qui ont vraiment parlé aux générations. Crache ton venin! Et puis ce phrasé. Si je peux faire une aparté. Moi, pour moi, téléphone, le choc, ça a été métro, c'est trop. Parce que moi, je me disais, j'écoutais énormément de musique anglo-saxonne, et je me disais, les Français comprennent pas ce que c'est le rock. Et d'un seul coup, un jour, à l'intérieur, on entend, métro, c'est trop! Il y avait un type qui avait compris cette espèce de faire le rock comme savait le faire Mick Jagger quand il faisait What's the matter, man? Et donc,
pour vous, ce sont un peu des Rolling Stones à la française, alors.
Ben oui, parce que Hallyday avait pas compris ça. Si on regarde bien, les Européens chantent les mélodies. Ils chantent, même à la limite, même les Beatles chantaient les mélodies, mais Mick Jagger avait importé ce truc des Blacks, là, qui était à la Otis Redding, c'est qu'ils scandent, ils font de la syncope, ils sont pas pile dans le temps. Et d'un seul coup, il y a un groupe en France qui avait compris ça. Allez, crache ton venin! Il y avait personne qui chantait comme ça, quoi. Et après, il y a eu un peu Bachung, mais téléphone.
Là, on va revenir à un autre, quand même, qui est quand même, Bertignac est très fort, mais enfin, celui qui chante, c'est Jean-Louis
Aubert.
Oui,
c'est là, je parlais d'Aubert.
Ouais, c'est Aubert. Hein.
Donc il y a eu les guitares de
Daniel,
Bertignac qui
sont passionnés. Ça va être génial avec vous deux comme auteurs, des créateurs de nouveautés. On va passer une page musicale. Restez avec nous, vous allez en savoir plus sur téléphone
c'est trop.
Sur le déstress.
Je veux te parler de la note de demain. Enfanté du monde, elle en sera la fin. Je veux te parler de moi.
de toi. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont les chemins qui mènent droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as des tonateurs jusqu'à courté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu es sur quelqu'un, prends en main ton destin. C'est la fin. La fin. La fin. Mon père dormit sans prendre ses gamins. Maman ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un l'amant de quoi te dire. Je suis un électron bombardé de photons. Le rythme de la vie, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
La bombe humaine, téléphone, évidemment qu'on va faire de la musique avec téléphone, puisqu'on a un spécialiste de téléphone. En quelle année sort cette chanson téléphone de
79.
La bombe humaine? Et elle parle de quoi? Parce que c'est vrai que c'est...
Elle parle un peu du mal-être d'une certaine partie de la population, mais surtout, c'est l'album Crache ton venin. Moi, je me souviens, quand on arrivait, il y avait une boutique sur la Champs-Élysées qui s'appelait Symphonia, et on allait voir les disques, etc. Et on voit d'un seul coup cette pochette avec les quatre à poil, quoi. On n'avait jamais vu ça. C'était hallucinant d'avoir fait une pochette. C'était Mondino qui avait eu l'idée.
Emmanuel, il y a aussi des passages dans La bombe humaine où Jean-Louis Aubert, parce que je pense que c'est une chanson de Jean-Louis Aubert, montre bien qu'il y a un mal-être dans la population. On dit ma mère ne dort plus sans ses médicaments. Rappelez-vous, chers amis auditeurs, il y a une idée de prendre ses... Et on sait que la France est le pays, chers amis auditeurs, champion du monde de consommation des anxiolytiques et des antidépresseurs, champion d'Europe en tout cas. Pour le stress, parfois, il y a des médecins qui prescrivent à tir l'arigot anxiolytique et antidépresseur. On est d'accord. Ce que vous prenez avec votre femme, là-bas, dans votre merveilleux lieu haut, est exactement à l'inverse. On est d'accord. Expliquez ça aux auditeurs de Remèdes à l'entrecrise. C'est d'autres remèdes. Ce sont d'autres remèdes. Emmanuel
Rey. En fait, il ne faut pas parler de remèdes. Il faut parler d'amélioration de sa santé. Puisqu'en fait, on n'est pas là pour concurrencer les médecins qui ont des actions spécifiques et très utiles dans les moments de crise. Parce qu'il faut bien voir qu'un médecin interagit avec son patient dans des moments de crise. Et malheureusement, dans ces moments-là, c'est un peu trop tard. On est obligé de, comme on dit, d'appeler l'ambulance, quoi, pour pour éteindre le feu.
On est en pleine crise.
On est en plein.
Vous mettez dans la prévention, c'est ça que vous nous
comme
dites.
Comme Notre-Dame, quoi, qui a pris feu terriblement.
Alors, on va pas revenir là-dessus parce que je pense que Notre-Dame sait des choses que les autres ne savent pas.
Et là, on est content.
Ce que j'avais dit moi une fois, c'est que si Notre-Dame pouvait parler, elle dirait des choses qui seraient paragoûtantes pour nos amis les politiques. Je ferme le banc.
Et là, si on revient sur notre centre qui utilise donc l'approche stress break, puisque en fait c'est l'idée de faire un break. Et c'est vrai que j'ai pris ce nom break qui est génial parce que c'est ça fait un petit clin d'œil au tennis. Et
souvent, c'est votre l'ancienne grande passion.
Ouais, ma grande passion.
Mais vous avez trouvé le titre qui vous va. Vous, l'ancien homme de tennis, faire un break, on est au tie break.
Hein,
et puis faire un break, c'est break, stop, on arrête. Stop le stress. Vous avez trouvé le titre idéal.
On s'arrête.
Stress break, c'est vraiment bien.
Et nous, on veut dire aux dirigeants que déjà, eux, dans leur fort intérieur, ils doivent se prendre en main, ils doivent prendre la responsabilité de leur santé, parce que s'ils tombent, qui va les remplacer? Et ça, c'est un coût énorme. On sait qu'aujourd'hui, un dirigeant qui tombe, c'est 1 million d'euros par an, en moyenne.
Et vous avez d'autant plus raison, Daniel, Emmanuel, que moi, je vois, on a fait des études avec mon organisme de formation, vous avez près plus de 80% des dirigeants d'entreprise qui ne prennent jamais leurs droits en formation.
Voilà.
Qui pensent que c'est des danseuses pour eux, qu'eux n'en ont pas besoin. Parce que vous comprenez, ils ont une croyance, les chefs d'entreprise, je suis fort, moi. Ces trucs-là, c'est des trucs de gonzesses. C'est pour le salon zen et le salon du bien-être. Sauf que c'est eux qui s'écroulent dans leur bureau et qui après font un malaise cardiaque, un arrêt cardiaque ou un AVC, ou alors un burn-out profond, on est d'accord. Et c'est eux, c'est ces gens-là, on est d'accord.
Ouais.
Donc vraiment, c'est ces gens-là qui sont vraiment dans une problématique à aider, on est d'accord.
Hein.
Alors qu'est-ce que vous faites là-bas pour eux?
Alors nous, déjà, on diagnostique d'une certaine façon, enfin, on pose une évaluation par un test rapide qui est fait par des médecins, puisqu'on a une équipe de médecins avec qui on travaille.
Ah, vous travaillez avec des médecins. D'accord.
Des médecins sur l'évaluation de notamment d'un indicateur qui est très fort, c'est l'oméga 3, oméga 6. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une carence en oméga 3 qui est terrifiante, puisque tout ce qu'on mange dans les supermarchés, notre alimentation, elle est carencée en oméga 3, elle est renforcée en oméga 6 d'une façon époustouflante. Et l'oméga 6, c'est ce qui durcit l'artère, qui va faire que le sang...
Et qu'est-ce que c'est dans quoi les oméga 6?
Oméga 6, c'est surtout les poissons gras. Donc c'est très important de prendre des poissons gras, c'est d'acheter du lait de haute qualité, oméga 3.
Ouais. D'accord. Donc il faut les oméga 6 qui sont dangereux pour les artères, c'est dans quoi qu'on les trouve?
On les trouve dans malheureusement
les produits,
tout ce qui est artificiel, tout ce qui est industrialisé,
gâteaux,
parce qu'on y met de l'huile de très basse qualité,
l'huile de palme, des choses comme ça, truc Nutella,
tout ça. Ces huiles-là vont durcir malheureusement.
Ça c'est très mauvais pour les artères.
Ouais, et on peut pas les remplacer, enfin pas les assimiler d'une façon aussi efficace que les
oméga 3. Alors vous faites faire un pont là, artère, problème de cœur, problème de sang, Jean-Louis Aubert.
Oui.
Jean-Louis Aubert qui a eu un grave problème il y a quelques années, il a failli en mourir, n'est-ce pas? Il a eu une opération à cœur ouvert. Il faut dire qu'à mon avis, dans les jeunes années du groupe Téléphone, il déconnait bien, et c'était l'époque, hein, avec les drogues, on est d'accord. Tous ces groupes-là, c'est des groupes qui sont allés comme du fond. Donc que ce soit Bertignac ou lui, ils n'ont pas amusé le terrain, comme dirait ma grand-mère. Est-ce que le cas, Daniel? Vous le citez, vous en parlez un peu dans le livre. Hein.
Bah oui,
Les soirées psychédéliques, les soirées.
Il y a une anecdote incroyable d'ailleurs quand ils sont au studio de Boulogne pour faire leur premier album et ils découvrent qu'il y a les Rolling Stones qui sont dans au même endroit mais dans un autre studio et ils veulent à tout prix rentrer et le gardien dit non, absolument pas, ils veulent rentrer dans le lieu où les Rolling Stones doivent arriver un ou deux jours et pour faire craquer le gardien, ils lui font fumer un pet et donc ils les laissent rentrer, ils essayent les guitares de Keith Richards et les autres, ils se prennent un grand savon après parce que bon, ils ont été dans le Saint des Saints.
Ils sont allés là où les Stones travaillaient.
Bah c'est ça, ils travaillaient sur l'album Some Girl, celui où il y a Miss You là, celui fameux album là.
Et vous faites attention, vous êtes à l'antenne monsieur.
Daniel
est tellement passionné que même avec sa bouche, il nous mime les sons, chers amis auditeurs. De musique, moi j'ai jamais entendu ça. Faites attention, vous avez des gens qui vont vous écouter, monsieur Daniel Ijba, d'accord? Donc voilà. Alors, ce qu'il faut voir, chers amis auditeurs, c'est que Daniel Ijba est un personnage, parce que Daniel Ijba à la fois écrit des bios et des livres sur les chanteurs, les groupes et tout, mais c'est aussi un haut journaliste scientifique qui a connu Bill Gates, qui a connu
Steve Jobs,
des choses comme ça. Donc, vous faites partie un peu de ces savants fous, un peu extraordinaire, qui aimer un peu aller à la recherche de gens originaux et un peu géniaux. Vous avez une appétence pour le génie, peut-être, non? Vous aimez les génies?
En tout cas, si j'ai besoin d'un attaché de presse, je sais qui à qui je demanderai.
Oui, moi, je suis juste animateur de mon émission, jeune. Alors, répondez à mes questions, vous serez gentils. Qu'est-ce que vous pensez? Le groupe Téléphone ont du génie?
Ils ont un certain génie, mais il faut rester en proportion, quoi, je veux dire. Quand on a eu juste avant Bob Dylan, on a eu les Pink Floyd, on a eu les Beatles, c'est Rolling Stones. Téléphone, au niveau français, c'est énorme. Mais c'est quand même... Moi, la première fois que j'ai écouté Téléphone, très bizarrement, je me rappelle, c'est un disquaire, j'ai dit, il nous refile les Rolling Stones 20 ans plus tard, quoi. Donc, il fallait... Surtout, ce qui était très fort à l'époque, c'était l'énergie hallucinante, quoi. Ça défonçait tout sur son passage. Téléphone, sur scène, on n'avait jamais vu ça, quoi. Hallyday, à côté, c'était un truc pour vieilles dames avec les viennoiseries, quoi.
Oui, enfin bon, là, c'est un groupe...
J'exagère.
Parce que Johnny Hallyday, il était un monstre de scène aussi.
Oui, c'est vrai. Non, j'exagère.
J'adorais Johnny.
J'exagère.
Je repense à...
Coupé au montage.
Je repense à Goldman. Mais il n'y a pas de montage. Non, c'est ça le problème. C'est qu'ici, c'est comme dans la vie. On ne gomme pas. On fait tout qu'une fois. Vous voyez.
D'accord.
Vous devriez comprendre ça, monsieur Hichbert. Tout ne se fait qu'une seule fois dans la vie. Et c'est bien le problème d'une vie. On peut retenter, refaire, mais tout ne se fait qu'une seule fois. Cette émission, on ne l'a fait qu'une seule fois. Et n'oubliez jamais. Certes, Nietzsche avait dit, il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, chers amis auditeurs. Mais à la vérité, ce chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, très belle phrase de Nietzsche. Comme quoi, vous voyez, Nietzsche était un génie. Mais, ça doit être fait dans du cadre, donc de la tenue. C'est très important, ça. Justement, Emmanuel, les gens, pourquoi les travailleurs français, selon une étude récente, sont des gens qui vont de plus en plus mal, on est d'accord? Donc, ils ont vraiment besoin de stress break. Étude récente, 2 salariés sur 3 disent avoir frôlé le burn-out en 2024.
Ouais.
Le stress est en passe et est devenu le mal du siècle, on est d'accord? Le burn-out, le burn-out. Vous, quand vous les voyez arriver dans votre magnifique lieu haut et terre, comment vous les prenez? Comment vous occupez d'eux? Il y a un protocole, il y a quelque chose? Emmanuel Rey.
Oui, il y a un protocole, c'est que déjà, on les assoit dans le salon pour qu'ils se posent devant un feu de cheminée, parce qu'on a un salon très confortable dans lequel on peut déjà se poser, comme on dit, poser les valises, tomber la veste, lâcher la tête, puisqu'en fait, ils viennent essentiellement pour couper le mental, ce hamster, ces trous du hamster qui tournent éternellement et qui créent énormément de symptômes, puisqu'en fait, on ne peut plus aller après contacter le corps. Puisque l'objectif de notre concept, c'est remettre un lien entre la tête, le corps, pour après ouvrir le cœur. Parce qu'on est vraiment sur un axe tête-cœur-corps.
Super.
Et c'est ça qu'on a vraiment amour à faire dans notre centre, d'accompagner les gens dans un premier lâcher-prise. Après, on part dans la forêt. Et là, on va lâcher aussi des tensions incroyables, puisqu'on a les terpènes, ces fameuses huiles essentielles qui sont en suspension dans la forêt. Les gens les captent et ma femme, Dorothée Garnier, donc de Chenac, elle adore accompagner ses cadres, ses dirigeants. Et puis le tout venant, on a aussi des gens de toute origine qui viennent et qui veulent aussi savourer cette saveur de la nature, cette saveur de la reconnexion à l'essentiel, la terre, les arbres, l'humus, toutes ces odeurs qu'on a qui sont absolument sublimes.
Donc ça, vraiment, il y a une dimension holistique dans votre thérapie. Cœur, tête, corps,
voilà,
et sylvothérapie avec l'eau. Je vous propose, mes deux invités prestigieux, de faire une seconde page musicale et rester avec nous. C'est passionnant. On va encore en savoir. Vous allez nous raconter des anecdotes au sujet de Téléphone et on va savoir encore de nouvelles techniques de haut et terre. Restez avec nous.
Lui
d'IDFM Radio, par nous, pour nous.
Un autre monde téléphone. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Remède à l'entrecrise. C'est la première de l'année 2025. On est heureux d'amorcer cette année sur IDFM Radio 98 FM. Une formidable radio en plein essor. Vous avez de nouvelles émissions cette année qui vont fleurir et elles arrivent. Francky me fait un petit oui, le réalisateur de hoche de la tête. Vous allez voir, IDFM est en pleine bourre, redémarre. Donc, restez bien à l'écoute d'IDFM vraiment toute l'année. La grille est passionnante et vous nous retrouverez peut-être une fois, peut-être deux, on va voir, peut-être au cours de l'année, deux fois ou une à deux fois par mois sur IDFM. Je suis toujours donc avec Emmanuel Rey de Stress Break, l'ancien grand homme de tennis mais avec son mieux, et Daniel Ishbia qui, entre autres, est un homme qui écrit des biographies et des livres sur la musique et les groupes et les chanteurs. Et là, en l'occurrence, téléphone au cœur de la vie. Pourquoi téléphone au cœur de la vie? Pourquoi au cœur de la vie, Daniel Ishbia?
Oh, c'était un jeu de mots avec Au cœur de la nuit, qui est le troisième album, en fait. C'était juste ça.
C'était juste pour ça.
Oui, oui.
Alors, cette chanson, Un autre monde, oui. Et je rêvais d'un autre monde. Il l'écrit quand? Il la chante quand? Dans quel contexte?
Il l'a écrit un petit peu avant l'enregistrement, plutôt vers 83, lorsqu'il a eu une petite piole. C'est un peu long à raconter, je crois qu'on a raconté.
Allez-y, en deux minutes, allez-y. On est là pour connaître.
Il avait
le
eu des gros problèmes fiscaux parce que le groupe avait voulu partir. À un moment, en 79, quand Jean-Louis Aubert avait déposé ses chansons, il faut savoir qu'un auteur-compositeur est propriétaire de ses chansons. Quand Jean-Louis Aubert arrive un jour à une séance en disant aux autres membres du groupe « Voilà, j'ai touché mes droits, SACEM », il avait touché des droits en tant qu'auteur-compositeur.
Vous dites d'ailleurs qu'il est très généreux et qu'à la différence d'autres, il partage avec tout le monde.
Bah, il n'a pas eu le choix. Les autres lui disent « Mais attends, on a tout fait ensemble et nous ». Donc ils lui ont imposé, sauf à faire exploser le groupe, de partager les droits d'auteur des chansons. Seulement, quand le fisc est arrivé, ils ont imposé... Jean-Louis Aubert s'est retrouvé sans le sou à cette époque-là, donc il vivait dans une petite pièce à la Gare de l'Est. Donc ce jour-là, il écrit Un autre monde. Un autre monde a été très très fort, parce que jusqu'ici, Téléphone était un groupe générationnel, c'est le groupe des lycéens. Et pour une fois, Un autre monde est devenu la première chanson transgénérationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait tilt à la génération de 68, à la génération des hippies qui avaient rêvé d'améliorer le monde. Et c'était un petit peu le constat. J'ai rêvé d'un autre monde où la Terre serait ronde. Et en fait, c'était un peu le constat dans les années 80. C'était que ces gens-là avaient rêvé d'un monde plus beau, enfin avec le partage, etc., les idéaux hippies. Et puis, ils s'étaient rendu compte que ça n'était pas arrivé.
Emmanuel Rey, nous sommes 40 ans après. On peut pas dire que ça se soit amélioré. Ça a empiré, hein, on peut dire. Il y a même encore plus une perte des idéologies et des grands rêves qu'il y avait dans les années 80, au 21e siècle. Chers amis auditeurs, le grand Malraux avait dit le 21e siècle sera spirituel et mystique ou il ne sera pas. Moi, pour l'instant, je le vois, il est IA plutôt. On est d'accord, plutôt que spirituel. Quant à la spiritualité, on est à l'ère de l'IA. Mais comme je le dis moi dans tous mes livres et dans mes méthodes et mes formations, on est au Moyen-Âge relationnel. Et ça risque de pas s'améliorer au niveau de la connaissance, du connais-toi-toi-même, de l'humain, au niveau réelle présence, parce que tout mon travail, moi, est de maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère du numérique, et les gens vont-ils encore mieux se connaître alors que on est encore plus dans la technologie? C'est un vrai problème, ça. J'ai écrit beaucoup de livres sur la question, mais le problème central va être là. Nos mômes sont, vous savez, chers amis auditeurs, une étude est sortie. Un enfant et un ado lit en moyenne par semaine à peine 12 minutes un livre écrit. Je parle pas devant les écrans. Et il passe 5 à 8 heures par jour devant les écrans. Voilà la vérité. 8 heures par jour devant des écrans, 12 minutes à 19 minutes, et encore pour les meilleurs, devant un livre. Emmanuel, un autre monde est-il possible?
Un autre monde, bien sûr, parce que c'est notre ambition, ma mission. Et je me vois bien amener une centaine de centres Stress Break, justement, pour que le week-end, on fasse venir les dirigeants avec leurs enfants. Tout âge, pour les reconnecter à des choses essentielles qui sont justement le contact avec les cinq éléments, parce que moi j'adore les cinq éléments. Je me suis formé en médecine chinoise avec la kinésiologie.
Alors racontez quel est le cinquième, parce que les cinquième éléments, c'est l'éther, n'est-ce pas?
Et là c'est très compliqué parce que les gens n'arrivent pas à se resituer dans la médecine chinoise avec les cinq éléments. Et en fait, ces cinq éléments ont une grande histoire parce qu'elles vont expliquer vraiment le bois, la nature, quand on part en forêt.
C'est le cinquième élément.
C'est le premier élément, en fait, qui est l'élément du foie, qui correspond au foie, qui est l'élément bois, en fait, qui est le foie qui va dynamiser la vue, puisqu'en fait, elle est rattachée au sens de la vue. Ensuite, on va aller dans le cœur, et le cœur, bah, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a du du feu dans la vie, c'est le cœur qui vous enflamme, et c'est par la passion, l'amour. Et là, on est dans un autre sens qui est celui de savourer l'amour, de goûter l'amour. Donc on a le goût, puis après on va rentrer dans la terre, et là on a besoin de toucher la terre. Et moi je fais toujours l'expérience, encore samedi soir, on avait un couple avec ses deux enfants, des grandes filles d'ailleurs, qui avaient pas loin de 25 ans, et qui voulaient se recontacter avec la terre, pieds nus, dans de l'herbe, dans le froid. Et je peux vous assurer que la sensation de se reconnecter à la terre, c'est génial, parce que ça apaise l'estomac, ça apaise du coup une tension mentale, immédiatement. Après, on va dans le quatrième élément, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, qui va se connecter avec le poumon, le gros côlon. Qu'est-ce qui fait que le gros côlon...
C'est quoi ce quatrième élément alors?
Eh ben voilà, c'est l'air. Mais c'est en fait le métal dans la médecine chinoise, mais qui correspond en fait à l'élément oxygène, mais aussi à tous les éléments de l'arbre MDDF, qui sont les premiers métaux qu'on va assimiler dans le corps, notamment le magnésium, et ça c'est très important. Le zinc fondamental dans cette période en ce moment pour l'immunité.
En hiver.
Et puis après on finit dans l'eau, dans ces fameux eaux chaudes, puisqu'on a quatre température, quatre bacs d'eau qui sont contenus justement dans les éléments métal, les éléments bois, les éléments feu, et on a vraiment cette réunion dans le sauna, on va enfin savourer la quintessence des cinq dimensions.
Daniel Ishbia, est-ce que les grands, donc les génies là du groupe Téléphone nous ont parlé de leur relation à la nature, leur amour du bien-être? Est-ce qu'à un moment donné, que ce soit Aubert ou Bertignac ou Corinne, parlez-nous de Corinne un peu. La Corinne, donc, la batteuse, n'est-ce pas? Corinne.
Non, Corinne, la bassiste.
La bassiste. Qui c'est, cette Corinne, alors? Elle est comment?
C'était au départ une danseuse. C'est quelqu'un qui a été extrêmement, comment dire, comprimé dans sa jeunesse, avec une éducation très bourgeoise, et qui, après 1968, et puis après être partie aux États-Unis, a eu une espèce de libération.
Ils se connaissent comment, ces gens-là? Ils font quoi? Parce qu'on, voilà, est-ce que c'est comme le Splendide? Ils se connaissent comment, Aubert, Bertignac?
Il y avait une bande de potes qui gravitaient autour des uns des autres. Et puis, il y avait par exemple une maison à Saint-Cloud où beaucoup de musiciens se retrouvaient, ils rentraient, ils faisaient des bœufs. Ils se reconnaissaient un petit peu comme ça. Par exemple, Jean-Louis Aubert et Bertignac se sont connus parce que pour sa terminale, Jean-Louis Aubert avait été placé dans ce qu'on appelle une boîte à bachots. C'est une boîte où on vous fait passer le bac, parce qu'il avait été largué d'autres lycées. Et à l'époque, Bertignac, dans son lycée à Carnot, avait la réputation d'être le dieu de la guitare. Et on lui avait dit qu'il y avait un autre dieu de la guitare, Jean-Louis Aubert. D'un seul coup, ils se retrouvent tous les deux dans la cour de récréation. L'ambiance, il était une fois dans l'Ouest. Finalement, ils se sont dévisagés. Ils sont allés dans un magasin de musique, ils ont essayé des guitares, ils sont devenus potes, et puis ils passaient leur temps dans leurs quatre ailes à jouer ensemble. Progressivement, donc, toute cette bande s'est agglutinée. Corinne, qui était danseuse, c'était devenue la petite amie de Louis Bertignac, et il l'avait collée à la basse. Elle n'avait pas une technique fabuleuse, mais elle avait un sens du swing, parce qu'elle avait bien attrapé le sens du jazz, quoi. Donc elle avait du punch, quoi. Donc, en fait, vraiment, ce qui a marqué Téléphone pour la jeunesse de l'époque, c'est que c'était, prenez quelque chose dans la figure. Le groupe, très honnêtement, c'est pas les Beatles, c'est pas Bob Dylan, c'est pas les Pink Floyd, mais c'est une claque monumentale. C'est l'énergie avant tout, Téléphone.
Emmanuel, donc vous, Téléphone.
Téléphone.
C'est quoi? Vous aimez bien Téléphone?
Un autre monde, j'étais en train d'admirer ses paroles où il parlait bien de la Terre est ronde et la Lune
serait ronde.
Et je me dis que la vie serait encore plus féconde. Et j'ai eu notamment un dirigeant la semaine dernière qui est arrivé et il voulait pas trop le soir dans la nuit noire se mettre en maillot de bain et rentrer dans un jacuzzi. Il m'a dit, je vais faire du sauna, je vais faire que le bac de froid sauna et après j'irai me coucher dans un chalet, parce qu'on a dédié un chalet en bois justement, parce qu'on travaille beaucoup avec ces éléments. Et on a quatre chalets, et notamment un chalet en bois où on les fait coucher, et là c'est merveilleux. Et je lui dis, c'est dommage, aujourd'hui il y a un ciel complètement clair, tu vas voir toutes les étoiles. Je t'invite à aller dans ce jacuzzi chaud, parce que tous mes jacuzzis sont dehors, du coup, pour pas avoir cette perturbation d'être enfermé, mais d'être vraiment libre avec, et de pouvoir voir la lune. Et de justement, cette lune ronde qu'on peut observer dans un jacuzzi dans le noir complet, c'est absolument merveilleux.
Et en phase et en ressenti des éléments.
On ressent les éléments, voilà.
Je me rappelle, ce que vous me dites me fait penser à ce que disait Claude Lelouch l'autre jour sur un plateau. Je crois que c'était chez Michel Drucker ou autre, qui disait, moi, le secret de la santé, je crois que je vous l'avais dit en off une fois il y a quelques jours, c'est à la fois de suer tous les jours, suer. Il faut que le corps sue, donc le sport. Moi, je suis éberlué, je suis d'accord avec Michel Simès. Le peuple français est un peuple qui fait pas assez de sport.
Non.
52% d'obèses dans notre pays, mesdames et messieurs. Faites du sport. ne pas faire du sport, mais le mec qui ne fait pas de sport, il a rien compris à la vie. C'est bon pour tout le sport. Vous parlez de stress, évidemment que vous êtes un ex-coach de sport, et des gens qui font pas 30 minutes de sport par jour sont des gens mais inconséquents. C'est bon pour tout, circulation et de vieillir et vieillir mieux, vieillir dans le bien-être, c'est anti-stress, c'est antidépresseur, c'est bon pour tout. Vous allez corroborer ce que je dis, Emmanuel Reil, évidemment. Rien ne vaut le sport, et donc suer. Il disait, moi je sue tous les jours, il a même un sauna évidemment, je sue tous les jours et je vais dans le froid. Suer et froid. Et
le bac de froid.
Les gens ne comprennent pas ça. Il faut dire que la culture sportive, pourtant on a des bonnes équipes nationales, mais Simès est écœuré parce qu'il y a eu cette parenthèse enchantée qu'ont été, chers amis auditeurs, les JO, ça a été extraordinaire. On rappelle après les JO, Francky, hein, réalisateur, on a fait des belles émissions avec des gens qui sont venus en parler ici à IDFM. Mais c'est aussi parce que les médias, enfin pendant un mois, n'ont pas été mais sursaturés de politique, dont on entend parler matin, midi et soir, ça nous gave, qui met en taux vibratoire bas les humains, avec une communication abominable, une manière aux antipodes de l'écologie relationnelle. Et c'est ça, mesdames et messieurs, c'est pour ça que des émissions de bien-être et de psychologie positive, les nôtres sont bien, parce qu'on parle de toute autre chose, mais on est la portion congrue des médias. 85% des médias les plus écoutés, c'est sursaturé de politique et de guerre du matin au soir. Et imaginez, puisqu'on sait maintenant grâce aux neurosciences que c'est ce qui impacte notre cerveau, c'est les mots qu'on envoie, les mots qu'on reçoit, les émotions qu'on ressent, et comme tout est vie, vibration, information et énergie, les neurosciences nous l'apprennent, et bien la façon dont ces gens-là, qui se soit dit en passant, sont ceux qui s'occupent du vivre ensemble, on est bien barrés, quand on voit leur comportement à l'Assemblée nationale, quand on voit leur comportement ensemble, et leur comportement il y a quelques mois là, et tous les jours, pour foutre la France encore plus dans la merde. Mais moi je suis éberlué en tant qu'homme de médias depuis 20 ans, et vous savez qu'on en a fait des émissions, je les ai toutes et tous interviewés sur d'autres médias, aux candidats, aux présidentielles et aux législatives, on les connaît par cœur, ce sont des milieux stressants, vous comprenez ? Ce sont des gens stressants rien qu'à les écouter. Emmanuel Reil, qu'en pensez-vous ?
Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui on doit renouveler complètement, on va dire le parc, c'est un peu comme le parc voiture, renouveler le parc de nos politiques pour qu'ils deviennent des communicatifs positifs, optimistes, et qui passent dans cette fameuse, on va dire, cinquième dimension, puisqu'on est maintenant à l'aube de la physique quantique. On est en train de travailler sur l'aspect quantique, qui veut dire que quelque part à un endroit, on peut très bien être dans le présent, dans le futur et dans le passé en même temps.
Daniel Ishbia, est-ce que le téléphone est un groupe engagé, ou est-ce qu'ils ont pris des positions politiques à un moment donné de leur...
Pas vraiment. Bon, ils avaient participé au festival où il y avait eu Black Blamber, mais ils ont toujours eu peur d'être récupérés.
C'était plutôt de gauche quand même.
Pas Black forcément.
Blamber, la marche des beurs.
Mais à l'époque, c'était Mitterrand qui était président.
La marche des beurs en 81.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense que le groupe n'a pas cherché à être récupéré, et beaucoup d'artistes en fait se tiennent à l'écart de la politique.
Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Mmh. Mais vous avez parlé avec Bertignac ou avec Aubert de leur vision du monde, par exemple, pour élargir, de leur vision de la vie et des êtres humains ensemble.
Pas forcément, parce que bon, quand on écrit une biographie, on est en train de gratter le passé quelque part, de gratter les années. Parce que quand vous faites, j'ai 4 ans, Jean-Louis Aubert, je vais essayer de ramasser le maximum d'anecdotes, quoi.
Ouais, d'accord. On passe une page musicale et restez avec nous. On va encore plus savoir de choses sur Aubert, Bertignac et toute la clique, et aussi sur Stress Break, le fameux lieu d'Emmanuel Reil.
Show you a little story. fais de ton mieux. Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas que venir.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Cendrillon, quelle merveilleuse chanson de téléphone. Qu'est-ce que j'aime cette chanson. Elle me touchait quand j'étais adolescent, cette chanson. Oui. Moi qui ai 49 ans, c'est vraiment une chanson qui a bercé notre adolescence. Puis moi, téléphone, c'est mon adolescence. C'est mes années collège, lycée.
Oui.
Et c'est vrai que Cendrillon, c'était touchant parce que c'est vraiment l'histoire de l'autodestruction d'une gamine, quoi.
C'est vrai.
Qui se suicide par la drogue. Qui, encore une fois, le mal-être, comme quoi ils étaient touchés. Et Daniel Ishbia, ils vous ont parlé de cette chanson. Vous pouvez raconter aux auditeurs de Remède à l'entrecrise, les origines de Cendrillon.
Cendrillon, c'était une maquette, enfin, qu'on appelle une maquette, c'est une démo musicale que Bertignac avait fait. Donc, il avait commencé Cendrillon. Au départ, il voulait faire une chanson sur, justement, sur les personnages de dessins animés, Blanche-Neige, etc. Puis, progressivement, il l'avait recentré. Aubert lui avait aidé un petit peu à écrire cette chanson. C'est un album dur limite qui est assez particulier parce que il sonne très années 80, avec un peu de synthétiseur. Il y a un son très spécial, les guitares superposées les unes aux autres, etc. Il y a un son que moi j'aime bien parce que j'aime bien le son des années 80 qui a été un peu une transition par rapport aux années 70, même si bon, peut-être je préfère les 70s quand même. Mais malgré tout, il y avait un son très particulier qui parfois a très mal vieilli d'ailleurs. Mais bon, pour beaucoup, les histoires de ces chansons sont contées en long et en large dans le livre.
Oui, enfin, dans le livre Téléphone, au cœur de la vie de Daniel Ishbia, il y a des dizaines et dizaines d'anecdotes.
Tout à fait.
Vous racontez des anecdotes au sujet de Aubert.
Tout à fait.
Au sujet de Corinne. On voit qu'Aubert, moi, ça m'a touché, ça, parce que moi, je suis un inconditionnel, avec ma mélothérapie, on cherche les chanteurs et les chanteuses qu'on aime. Moi, je suis un inconditionnel de Barbara. Et référez à Barbara parce que Aubert a connu Barbara.
Complètement.
Et il dit à un moment donné, page 184, comme me l'a dit un jour Barbara, des idées, tout le monde en a.
Tout à fait.
Les réaliser, tout le monde n'y arrive pas.
Exact.
Et mener une chanson jusqu'au bout, en dépit des obstacles de la vie, c'est une autre paire de manches.
Bien sûr.
Et Aubert a été fasciné par Barbara. Vous pouvez expliquer cette relation qu'il a eue avec Barbara, Daniel Ishbia.
Oui, ils se sont rencontrés en 96 à l'occasion d'une chanson qu'ils devaient écrire ensemble. C'est le Jour se lève encore qui, en fait, Aubert a commencé à écrire une musique sur les textes de Barbara, et puis ils ont découvert après que Barbara avait elle-même écrit sa propre musique. C'est une très belle chanson d'Aubert dans sa carrière solo. Donc ça a été une des rares chansons où la SACEM a accepté qu'il y ait un même texte avec deux musiques.
Ah oui, d'accord. Un texte et deux musiques.
Tout à fait.
Une de Barbara, une d'Aubert.
La version d'Aubert.
Emmanuel Rey, est-ce que vous envisagez de faire de la place, ou est-ce que déjà, hormis le silence, parce que le silence c'est de la musique, le sound of silence, comme aurait dit Simon et Garfunkel, le son du silence. Je suppose que c'est surtout ça que vous axez, vous, parce que dans un monde de bruit et d'archi-bruit dans lesquels nous sommes, nous, les hyper-urbains, je veux dire, aller dans la nature et réécouter le son du silence, rien de meilleur pour méditer et de calmer et faire baisser le taux du système nerveux. On est d'accord, hein. C'est ça votre idée.
Oui, parce qu'on a en même temps les sons de la nature qui sont tout près, puisqu'on a l'avantage d'être dans un parc d'un hectare qui a absolument que le bruit des arbres
et des
feuilles pour nous bercer, nous enchanter. On a les petits oiseaux qui sont là aussi. On a pas mal d'oiseaux qui reviennent. Et puis on a l'eau qui, le bouillonnement de l'eau dans toutes ses saveurs avec des huiles essentielles et une certaine musique. Parce que certaines fois, je peux mettre de la musique dans l'eau. Donc j'ai un système d'eau dans le jacuzzi. Et là, on peut mettre des mélodies très acoustiques qui vont aider les personnes à justement encore à atteindre un autre niveau de détente et de relaxation. Puisqu'on n'est jamais assez relaxé pour atteindre un niveau d'extase, en fait, entre guillemets, de nirvana, comme on dit, parce qu'on n'est plus pollué par notre brouhaha.
Nirvana, Daniel Ishbia, notre groupe.
Smells like teen spirit.
Nirvana. Ouais,
tout à fait.
Vous voyez, vous aussi, vous référez à la musique.
Ouais.
Dites-moi, parlons, on a très envie de venir. Je pense que les auditeurs de Remède à l'entreprise ont envie de venir dans votre lieu de bien-être, et en ce début d'année, c'est très bien qu'on commence
bien
sur un lieu dans l'île de France qui donne envie. Pas vrai, Francky, à la Réal. Un lieu qu'on va venir visiter, les animateurs d'IDFM.
Ah oui.
On va venir voir chez vous. L'album Crache ton venin.
Oui.
Vous faites une longue page et même chapitre. Il vous a marqué, hein. Il est marquant dans l'histoire de la musique, Crache ton venin de téléphone. Daniel Ishbia.
Il y avait encore ce phrasé Crache ton venin qui était cette façon de chanter le rock que Aubert arrivait à mettre dans la langue française, ce phrasé rock que justement ni Eddie Mitchell, ni Hallyday, ni les autres chantaient à l'européenne, qu'ils le veuillent ou non. Hallyday n'a jamais, enfin, il a chanté, il a eu quelques moments, mais En général, ils chantent à la française. Et Aubert avait capté cette façon de chanter qui est black quelque part, une chanson qui vient d'Otis Redding et qui vient que Mick Jagger a extrêmement bien transposé.
Donc Aubert, c'est le black white.
Oui, quelque part.
Le French black.
Enfin, c'est cette façon de scander. Il a, c'est-à-dire que le jazz. Il y avait quand même deux personnes qui avaient compris ça. Il y avait Gainsbourg. Quand il avait fait genre par exemple L A E dans la T, ça c'est du phrasé jazz. Il y avait Nougaro mine de rien quand il faisait quand le jazzé.
D'ailleurs, il va aller s'inspirer aux États-Unis. Hein, tout à fait. Il fait donc, New York. Ouais.
Le jazz avait compris ça. Dans le rock, il y avait principalement les Stones qui avaient compris, qui avaient importé cette matrice qui vient de l'Afrique, qui vient de scander, qui est complètement différente de la musique classique. Et la plupart des chanteurs français chantent de façon classique, c'est-à-dire dans les temps, alors que la musique rock vraiment imbibée de soul, elle décale.
Et qui est le batteur de historique alors de Téléphone?
C'est Colin K.
Oui, qui est comment Colin K comme batteur? Alors, on a notre Réal qui est aussi un grand batteur.
Oui, oui.
Dans une autre
Colin
vie parallèle.
Colin K, bon, quand il était jeune, il avait la fougue, mais pas la technique. Mais quand, par exemple, ils se sont reformés en 2016, moi, j'ai été carrément vert parce que maintenant, il sait jouer. Il sait jouer vraiment très bien. On croirait un batteur de salsa. On croirait vraiment voir un mille pattes sous les yeux, quoi. Colin K, lui tout seul, c'est une locomotive. Il emmène tout le monde.
Il fait encore des concerts,
tout à fait.
Avec qui, tout seul?
Ben, il avait accompagné Cali, je crois qu'en ce moment il accompagne Calogero,
Tout
à fait. Mm-hmm.
Donc il continue, ouais.
Récemment.
Il suit des grands chanteurs.
Oui, non, parce que lui, c'est le problème avec Colin K, c'est que quand il est sur une scène, souvent, pendant 5 minutes, on se rend compte qu'on regarde que lui, quoi. C'est un peu embêtant pour le chanteur.
Ah. Emmanuel.
Oui.
Ray. Donc la musique, on est bien d'accord. Est-ce que vous voulez donc sur AO et Terre, est-ce qu'il y a des choses dont vous n'avez pas encore parlé qui se passent là-bas, dans votre magnifique lieu dans le 77, près de Moret-sur-Loin?
Oui, on a un concept qui est génial, c'est le concept du coaching Walt Disney, parce qu'en fait Walt Disney avait un processus où il avait un secret pour créer ses films merveilleux, qui était un chalet spécial pour le rêve, un chalet pour les réalisateurs de ses dessins animés et un chalet spécifique, un espace pour être dans la critique. Et le critique n'avait pas le droit d'aller embêter les réalisateurs ou les rêveurs, et vice-versa. On devait toujours respecter un temps de rêve, un temps de réalisation et un temps de critique pour améliorer le projet. Et nous, on a eu la chance.
Feedback.
Et j'ai pu faire ça parce que j'ai travaillé beaucoup avec Robert Dills, qui est un coach.
Ah, Robert Dills, sacré coach.
Oui, qui avait formé d'ailleurs.
Que m'avait fait connaître quelqu'un qu'on a connu dans d'autres vies ensemble.
Ah oui, et puis
Claire Phillips qui me disait mon émerveil de Robert Dills, qui est venu dernièrement faire une formation là à Paris.
Oui, il vient très souvent à Paris. Il vit d'ailleurs en France avec sa femme, Déborah, et il a formé quand même Anthony Robbins, qui est pas un moindre petit coach. Et j'ai eu la chance de travailler 10 ans avec Robert. Et il m'a donné ce rêve de créer cet endroit.
Vous avez travaillé avec Robert Dills?
Ouais, je me suis formé pendant 10 ans. Ouais. Et c'est là où j'ai créé ce concept de ces trois chalets.
J'ai écrit un livre, chers amis auditeurs, très connu, qui s'appelle Être coach.
Oui.
Qui est un livre qui a été un de ses best-sellers, un très beau livre sur qu'est-ce que c'est être coach que j'ai à la maison. Robert Dills, qui est un grand de nos métiers, nous, les coachs, les life coach, comme on dit. Je suis un coach de vie, comme Tony Robbins. On dit que de moi que je suis le Tony Robbins français, voilà.
Voilà,
c'est comme ça.
Voilà.
Donc, Robert Dills, on le connaît. Québécois, je crois, canadien.
Californien. Il a vécu, il
a longuement vécu au Canada.
Non, il a surtout été il est né tout près de Steve Jobs. En fait, il est même année que Steve Jobs. Il était très voisin.
Vous éveillez Daniel Hichbier, chers amis auditeurs. Oui. Vous faites un pont parce que Daniel Hichbier, je crois que vous avez connu Steve Jobs.
Bien sûr, j'ai connu Bill Gates.
Deux autres membres du groupe Téléphone. Non, je plaisante, Daniel.
Je suis journaliste dans le jeu vidéo et la technologie depuis 86.
Et une autre de vos grandes passions. Et alors, quand vous avez connu, alors que c'est quand même passionnant d'aller avoir quelqu'un là qui a croisé Steve Jobs et Bill Gates, quand même deux génies de ces dernières décennies. Là, on quitte un peu le monde de la musique, mais comment vous avez connu Steve Jobs?
J'ai aucun mérite particulier. Quand on est journaliste dans un domaine, on fréquente les gens de ce domaine. Je veux dire, un journaliste musical va fréquenter Mick Jagger et peut-être à l'époque John Lennon avant 1980. Mais bon, un journaliste, comme j'étais dans la high-tech ou les jeux vidéo, on fréquentait tous les grands de ce monde, mais on les voyait sur les salons, on leur parlait comme on se parle en ce moment.
Oui, vous les interviewez, vous leur posiez 3-4 questions, quoi. Ouais, vous les étiez près d'eux, quoi. C'est dans l'univers.
Et donc, moi, c'est à partir de là, tout a démarré avec une biographie de Bill Gates que j'ai été le premier à écrire parce qu'il y avait des tonnes de...
Donc, vous avez écrit une biographie de Bill Gates.
Tout à fait.
Donc, Daniel Hichbier a écrit en même temps une biographie à un autre moment de sa vie de Bill Gates.
De Steve Jobs, de Bill Gates, enfin, de tous ces gens-là. Parce que c'était des gens qu'on côtoyait et
Et quoi? Continuez à parler, simple, on est à la radio. Hein.
Il se passait des choses dans cet univers qui, je me disais, faut les compter, faut pas qu'elles disparaissent. D'ailleurs, la preuve, c'est que certains des protagonistes de l'histoire de Bill Gates sont déjà disparus depuis un bon moment même. Donc, il y a pareil pour téléphone, en fait, il y a des histoires, il faut les raconter quand elles sont là, quoi. Parce qu'après, elles s'évaporent, quoi. Elles sont dans la mémoire des gens. Et c'est, je dirais que pour téléphone, les gens qui vont lire le livre, ils vont se dire, c'est pas possible que ça s'est passé, quoi. Et ça s'est passé.
Ça s'est passé. Après, c'est intéressant de voir, vous savez, nous, on est dans le Val d'Oise, hein, IDFM. Vous savez que les locaux d'IDFM, nos studios sont dans le Val d'Oise. Et il y a un haut endroit où se sont passées des choses incroyables à deux pas de chez nous, là. Et moi, j'y suis allé. C'est dans un château où ont été, enregistrés des milliers et milliers de grands groupes.
Hérouville?
Oui, à Hérouville. Ah, oui. Et c'est une ruine. Personne n'en fait rien. Il y aurait de quoi en faire un lieu. À Hérouville, les Stones sont venus. Bien les sûr. Beatles Elton sont John. Venus. Elton John est venu. Et vous allez à ce château d'Hérouville. Le maire, mais, excusez-moi, non, je vais arrêter. Je vais pas faire d'insultes. Mais n'importe quoi, il y a matière à faire des millions, d'accord ? Eh ben c'est une ruine, le château d'Hérouville où sont venus, qui est un haut lieu du rock, de la chanson, où ils ont fait des fiestas dans la. Il y a eu un livre qui est sorti là il y a 3-4 ans sur l'histoire d'Hérouville, mais j'y suis allé moi avec ma compagne pour juste voir. C'est un château laissé à l'abandon, il y a rien. La municipalité d'Hérouville, mais si vous écoutez IDFM, mais faites quelque chose, vous dormez sur une mine d'or. Il y a de quoi faire des visites comme au château d'Auvers, enfin, comme à l'endroit où Van Gogh est mort. Qu'en pensez-vous, Daniel Ishbia? Hérouville, c'est un lieu mythique. Daniel Ishbia,
c'est un lieu mythique qui est lié à une génération, celle des années 70. Je suis pas forcément sûr que ça attirerait les
mais
foules aujourd'hui.
Mais bien marketé, vous plaisantez.
Okay.
Qui est venu jouer là? Qui est venu créer des chers albums là? Dites-le aux auditeurs d'IDFM.
On quitte château, par exemple, de Elton John, quoi.
Mais il y a eu Elton John, les Stones.
Les Stones, oui,
les Beatles, je crois.
Pas les Beatles.
Non, mais il y en a plein d'autres qui sont venus. Des Français sont venus aussi.
Bah, entre autres, il y a eu deux des membres de téléphone qui circulaient très souvent à...
Eh ben écoutez, moi je vous dis, c'est un endroit incroyable. En tout cas, pour finir, messieurs, la période va pas bien. On a envie de passer une année 2025 en psychologie positive pour rendre le smile aux Français. Qu'avait-on vous dire? On arrive en fin d'émission, on n'a pas vu le temps passer avec vous. Vous êtes deux hommes tellement passionnants. Remède à l'entrecrise touche à sa fin. Emmanuel Rey, un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour donner du smile aux Français pour 2025, du soleil dans leur tête?
Bah de prendre vraiment la mesure des paroles justement qu'on se dit. Comme on a pu appliquer les accords Toltec, hein, de ne rien prendre pour personnel, parole impeccable, faire de son mieux et de rien prendre pour personnel, pas de supposition surtout, ne pas supposer que le pire puisse arriver, mais au contraire que tout peut changer en une fraction de seconde. On peut se mettre dans un état de transformation intérieure intense, simplement en imaginant, en se remémorant des moments extraordinairement positifs de sa vie. Et si on vient chez nous, chez Stressbreak, au Ether, bien sûr, vous aurez encore plus de chances de recontacter tout ça.
Daniel Ishbia, un dernier mot pour comment donner du moral aux Français en écoutant téléphone?
Ben, quand on lit l'histoire, on voit que quand eux-mêmes se sont fait leur succès tout seuls, ils n'ont pas attendu que les maisons de disques viennent les chercher. Les maisons de disques sont venues les chercher, mais ils ont parcouru la France, ils ont sillonné. Et le message qu'on peut faire passer, c'est que chacun peut s'en sortir si vraiment il faut juste y aller.
Messieurs, merci d'avoir participé à la première de Remède à l'entrecrise 2025. Et une dernière chose, messieurs, je dirais, chers amis auditeurs, pour ce qu'on était sur une note musicale pour cette première de l'année, comme disait un grand musicien et un grand chanteur, ce monsieur, c'était Jimi Hendrix, quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, l'humanité connaîtra peut-être enfin la paix. Au mois prochain, je vous embrasse et merci à Francky pour la réalisation.